VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du mercredi 28 août 2019. En direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En République démocratique du Congo, l'ex-ministre de la Santé, Oli Ilunga, a été entendu par la justice en rapport avec la gestion de fonds publics destinés à la lutte contre Ebola.
Au Tchad, plus de 300 personnes, dont plus de 240 rebelles de l'UFR et des membres de Boko Haram, ont été condamnés pour terrorisme.
Trois militaires maliens ont été tués dans une attaque de djihadistes dans le centre du Mali.
La bande de Gaza est en état d'alerte, annoncent les autorités du territoire contrôlé par Hamas, après des explosions fatales à deux policiers palestiniens.
Les incendies en Amazonie, le président du Brésil accepte finalement une aide financière de l'étranger.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En RDC, l'ex-ministre de la Santé, Oli Ilunga, a été entendu hier par la justice, et ce dans une enquête sur l'utilisation de fonds publics dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola qui a tué près de 2000 personnes en un an. Son avocat, maître Guy Kabeya, a dit que le docteur Oli Ilunga a été auditionné par le parquet général près la cour de cassation. L'instruction est en cours et l'ex-ministre a confiance dans la justice de son pays, a ajouté maître Kabeya. Selon une source judiciaire citée par l'AFP, le docteur Ilunga est reparti libre. C'est une enquête préliminaire. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Le docteur Ilunga n'est pas en état d'arrestation, a ajouté une autre source. Trois de ses ex-collaborateurs, dont un médecin, ont été placés en garde à vue, a ajouté la même source, qui confirme une information de la radio Top Congo.
Au Tchad, plus de 300 personnes ont été condamnées à des peines allant de 10 à 20 ans de prison pour terrorisme. Parmi elles, plus de 240 rebelles de l'UFR, l'Union des Forces de Résistance, et 37 ou plutôt 97 membres de Boko Haram. Des détails avec Abdourahmane Dia.
Le procès devant la Cour criminelle spéciale, ouvert il y a une semaine, a reconnu coupable de terrorisme et complicité de terrorisme 243 membres de l'UFR, a indiqué le ministre tchadien de la Justice, Djimet Arabi. 24 mineurs ont été relaxés. La justice a aussi condamné à la perpétuité par contumace une dizaine de responsables se trouvant en dehors du Tchad, dont leur chef et neveu du président Déby, Timane Erdimi. Ils ont été reconnus coupables de terrorisme et d'enrôlement d'enfants. Début février, le groupe armé était entré sur le territoire à partir de la Libye. À la demande de N'Djamena, la France avait procédé à trois reprises à des frappes d'avions Mirage 2000 contre la colonne qui voulait renverser le président tchadien. Toujours selon le ministre tchadien de la Justice, dans le cadre de ce même procès, 97 membres du groupe Boko Haram ont écopé des mêmes peines allant de 10 à 20 ans de prison.
Trois militaires maliens ont été tués mardi et sept autres blessés dans une attaque dite complexe de djihadistes présumés dans le centre du Mali. Cette attaque s'est déroulée en deux temps, selon une source militaire. Un véhicule de l'armée a sauté sur un engin explosif et une attaque de djihadistes a suivi. De son côté, l'armée a parlé de l'explosion d'un engin artisanal entre Douenza et Ombori, une route régulièrement visée par des attentats de ce type. Les assaillants ont abandonné un mort sur place, a ajouté l'armée malienne.
Et au Nigeria, des hommes armés, membres du groupe de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, ont tué par balle, mardi, 11 ouvriers et blessé de nombreux autres dans le nord-est du pays, ont annoncé à l'AFP le leader d'une milice et un habitant. Les ouvriers étaient en train d'installer des câbles de fibre optique dans un village à 150 km de la capitale de l'État de Borno. Selon les mêmes sources, ils avaient ignoré les avertissements des assaillants qui leur disaient de cesser d'installer les câbles car ces djihadistes considèrent ce projet comme une menace.
La Tanzanie veut procéder à partir du 1er octobre au rapatriement de tous les réfugiés burundais présents sur son sol, estimant que la situation au Burundi voisin permet désormais leur retour. Le point avec Michel Joseph.
En accord avec le gouvernement burundais et en collaboration avec le Haut Commissariat pour les réfugiés, nous allons entamer le rapatriement de tous les réfugiés burundais le 1er octobre, a déclaré Kangi Lugola, ministre tanzanien de l'Intérieur. Selon lui, 2000 réfugiés seront rapatriés chaque semaine jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de réfugiés burundais sur le sol tanzanien qui abrite quelque 200 000 réfugiés dans la région de Kigoma au nord-ouest. Le ministre Kangi Lugola et son homologue burundais Pascal Baranda Guillé se sont déplacés dimanche dans l'un des camps de réfugiés pour annoncer cette décision. De son côté, le HCR a estimé que la situation au Burundi n'est pas à l'heure actuelle de nature à encourager des retours, rappelant que des centaines de Burundais fuient toujours leur pays. Lors d'une rencontre avec son homologue Pierre Nkurunziza dans le nord-ouest de la Tanzanie en juillet 2017, le président John Magufuli avait en personne appelé les réfugiés burundais à rentrer chez eux.
En Guinée, la justice a levé hier le contrôle judiciaire de deux journalistes et ce au lendemain d'une manifestation des confrères pour dénoncer le harcèlement des médias privés. Lionel Gahima.
Souleymane Diallo, administrateur du groupe de presse Le Lynx, et Boubacar Diallo, directeur de la radio du même groupe, avaient été inculpés de diffamation et placés sous contrôle judiciaire. Ils devaient se présenter tous les jours devant un juge de Conakry. La justice a levé le contrôle judiciaire qui pesait sur mes clients, a annoncé leur avocat Salifou Béavogui, en précisant que la procédure judiciaire se poursuivait. Je salue cette mesure qui permet à nos collègues de vaquer librement en leurs occupations, a réagi Sanou Karfala Sissé, président de l'Union des radios et des télévisions libres de Guinée. Néanmoins, les radios privées vont quand même diffuser le 2 septembre une émission commune pour dénoncer le harcèlement des pouvoirs publics contre la presse privée. Des dizaines de journalistes ont manifesté lundi devant le siège de la Haute Autorité de la Communication à Conakry pour protester contre la mise sous contrôle judiciaire de nos deux confrères et dénoncer les entraves à la liberté de la presse en Guinée.
Le premier président de la Gambie indépendante, Sir Daouda Diawara, renversé en 1994 lors du putsch mené par Yahya Jammeh, est décédé mardi à l'âge de 95 ans, a déclaré sur Facebook et Twitter Adama Barrow, l'actuel président du pays. Monsieur Barrow a déploré une grande perte pour la Gambie en particulier et pour l'humanité en général.
Greenpeace a demandé hier des mesures contre les incendies qui menacent les forêts du bassin du Congo, l'autre poumon vert mondial après les incendies de l'Amazonie. Le point avec Ekia Badou.
À long terme, les gouvernements doivent mettre fin à toute activité industrielle à l'intérieur de la deuxième forêt humide tropicale au monde, écrit Greenpeace dans un communiqué depuis Kinshasa. Selon l'Association pour la protection de l'environnement, depuis le 21 août, plus de 6900 feux en Angola et 3395 feux en République démocratique du Congo ont été documentés, précisant que ces feux touchent surtout la savane et non la forêt. Luanda a vite réagi, se disant agacé des comparaisons hâtives avec le Brésil. En juillet, Greenpeace avait aussi demandé l'annulation de tous les blocs pétroliers dans la forêt humide de la République du Congo. Le président Denis Sassou Nguesso avait répondu que le gisement découvert dans la région de la Cuvette est situé à la périphérie des zones abritant les tourbières. Après cette déclaration, Greenpeace Afrique s'est inscrit en faux, disant que ses cartes montrent que 64% de la surface du bloc pétrolier Ngoki concerne des tourbières.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le Brésil s'est finalement dit ouvert mardi à une aide financière d'organisations étrangères et même de pays pour lutter contre les incendies en Amazonie, à condition de contrôler les fonds conformément à sa souveraineté. Brasilia avait la veille rejeté une offre de 20 millions de dollars du G7. Le président brésilien Jair Bolsonaro avait exigé mardi matin que son homologue français Emmanuel Macron retire au préalable, pour citer M. Bolsonaro, ses insultes contre ma personne, prenant ainsi le parti de l'escalade dans la violente polémique opposant le Brésil et la France.
État d'alerte ce mercredi dans la bande de Gaza après des explosions fatales à deux policiers palestiniens, ont annoncé les autorités dans l'enclave palestinienne contrôlée par le Hamas. Les deux policiers ont été tués dans deux explosions ciblant des checkpoints de la police hier soir. Les autorités à Gaza n'ont pas précisé la nature de ces explosions, alors que l'armée israélienne, qui avait bombardé mardi en fin de journée un poste militaire du Hamas dans la bande de Gaza après un tir d'obus d'un obus vers Israël, a indiqué n'avoir mené aucun raid aérien dans la nuit.
Retour sur la possibilité d'une rencontre entre le président américain et son homologue iranien. Après les efforts de médiation du président français Emmanuel Macron au sommet du G7, M. Trump s'est dit favorable à un tel tête-à-tête lundi, à condition que les circonstances soient réunies. Mais M. Rouhani a averti dès mardi que les États-Unis devaient auparavant lever toutes les sanctions imposées à l'Iran. Depuis que M. Trump s'est retiré en mai 2018 de l'accord international sur le nucléaire iranien. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
L'Ouganda a relancé sa compagnie aérienne nationale, Uganda Airlines, avec un vol inaugural en direction de Nairobi. La compagnie, restée inactive pendant 2 décennies, desservira d'abord 7 destinations régionales au Kenya, en Tanzanie, en Somalie, au Sud-Soudan et au Burundi, avant de s'envoler en novembre vers l'Afrique du Sud et centrale. La compagnie compte aussi avoir des vols directs vers les pays du Golfe et la Chine. Les pêcheurs de carpes de Lambaréné au Gabon peuvent reprendre leurs activités après un mois d'interdiction provoquée par la découverte de centaines de poissons morts en juillet. Les enquêtes ont établi que les carpes sont tuées par une bactérie qui n'affecte que cette espèce de poisson. C'est une hypothèse qui éloigne donc celle d'un empoisonnement aux hydrocarbures ou au mercure. Les autorités conseillent désormais de ne pas consommer les poissons trouvés déjà morts et de privilégier la cuisson en bouillon. Pour terminer, le gouvernement ivoirien veut construire sur 3 ans près de 108 entrepôts de stockage de noix de cajou dans les zones de production du pays, publie l'agence Ecofin. D'un coût global de 157 milliards de francs CFA, ces installations posséderont une capacité de stockage de 500 000 tonnes de noix de cajou, soit près de 65% de la récolte annuelle du pays. Les différents entrepôts devraient permettre aux producteurs de stocker leurs récoltes au lieu de les vendre pour satisfaire leurs besoins immédiats de fonds, même quand les prix du marché sont bas.
Les sports à présent avec Bagassi Koura. Bagassi, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Les 12e Jeux africains se poursuivent à Rabat, au Maroc.
Oui, la journée du mardi a été marquée par la finale du 100 mètres dames. L'Ivoirienne José-Marie Talou a remporté la médaille d'or en 11 secondes 09. On fait le point avec Kader Traoré.
L'Ivoirienne José-Marie Talou a honoré son rang de championne d'Afrique en course de vitesse de 100 mètres. Elle s'est imposée une fois de plus à Rabat en remportant la médaille d'or grâce à un temps de 11 secondes 9. Elle conserve du même coup ce titre conquis il y a 4 ans au Congo-Brazzaville. Pour ce qui est du chrono, elle n'en a cure.
Je suis contente déjà de conserver mon titre encore de championne des Jeux africains. C'est un plaisir pour moi de représenter mon pays. Donc voilà, il fallait conserver son titre, c'est ce que j'ai fait. Je m'en fous du temps. Tout compte fait, le plus important encore, il y a les championnats du monde qui arrivent. Donc c'est là qu'on verra les chronos encore, mais je suis contente. Je pense qu'il y a quelque chose qui a failli au départ. Je pense que j'ai failli tomber et tout, mais après j'ai quand même réussi à maintenir le rythme et m'imposer. Donc c'est ça qui est le plus important.
Kader Traoré à Rabat pour VOA Afrique.
On connaît désormais la liste des écureuils pour la journée FIFA en septembre.
Oui, ça sera la première sortie des écureuils du Bénin après la bonne prestation de l'équipe à la CAN 2019. Pour le compte de la journée FIFA du mois de septembre, la sélection béninoise affronte la Côte d'Ivoire et l'Algérie. Ces matchs se joueront respectivement les 6 et 9 septembre prochains en France.
Un nouveau sélectionneur pour la Tunisie.
Oui, l'ancien entraîneur du club Monder Kéber a été nommé comme nouveau sélectionneur de la Tunisie en remplacement du français Alain Giresse. Selon Africa Top Sport, le nouveau sélectionneur natif de Bizerte a signé un contrat de 3 ans. Il sera présenté ainsi que son staff jeudi lors d'une conférence de presse au siège de la fédération. Âgé de 49 ans, Kebayer va connaître sa première expérience à la tête d'une sélection. Il a par le passé exclusivement entraîné des clubs locaux, dont le club africain et l'Espérance sportive de Tunis.
Et un Algérien prend la tête de la sélection du Botswana.
Oui, Adel Amrouche a été officiellement présenté hier par la fédération botswanaise. Adel Amrouche vient en remplacement de David Bright qui a été limogé en février dernier. Il a pour mission de qualifier le Botswana pour la CAN 2021. Depuis leur seule participation à la CAN en 2012, les Zèbres veulent revivre ces moments inoubliables. L'Algérien a l'avantage d'avoir dirigé des sélections sur le continent. Il s'agit notamment de la Guinée équatoriale, du Burundi, du Kenya et de la Libye.
En France, première défaite de Lyon en Ligue 1.
Oui, l'Olympique Lyonnais a chuté pour la première fois de la saison sur la pelouse de Montpellier 1-0. Mardi, un match décalé de la troisième journée du championnat, laissant Rennes seul avec 3 victoires aux commandes. Lors des 2 premières journées, Lyon avait marqué 9 buts, 3-0 à Monaco contre Angers à Décines.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sedoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Pendant la dernière décennie, le nombre d'étudiants étrangers inscrits dans les universités américaines a régulièrement augmenté, mais à cause des frais de scolarité très élevés aux États-Unis et des problèmes de visa et autres, les étudiants étrangers se tournent de plus en plus vers le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Europe et la Chine. Dans ces pays, les études sont moins chères et plus pratiques. Reportage de Sahar Majid, repris ici par Lionel Gahima.
Les coûts sont très élevés pour étudier dans les universités américaines. Fata Hao, vice-président de Campus Life à American University à Washington D.C.
Ce n'est un secret pour personne. Comparé à d'autres pays, le coût de l'enseignement supérieur aux États-Unis est beaucoup plus élevé.
Les frais de scolarité ne sont pas le seul facteur dissuasif. Une étude de l'Institut international pour l'éducation met aussi en évidence la perception de la criminalité aux États-Unis et la rhétorique sur l'immigration. Bakhtiar Romadoni Arsral, étudiant indonésien.
En fait, c'est devenu ma principale préoccupation. Je suis d'origine indonésienne, asiatique et musulmane. Mon apparence est différente. Les gens voient que je viens d'un autre pays. C'est une situation difficile pour moi, même si au début je pensais que ce n'était pas un problème, croyant que l'Amérique était ouverte.
D'autres pays comme le Canada sont conçus comme plus accueillants et cherchent à attirer des étudiants de Chine, de l'Inde, des Philippines, du Vietnam et du Pakistan en leur accordant des visas qui sont traités en 3 semaines. Kirsten Hillman, ambassadrice adjointe du Canada aux États-Unis.
D'après nos statistiques, nous avons constaté que ces pays sont les plus intéressés à envoyer des étudiants au Canada.
Et ceux qui ont étudié au Canada trouvent que leur immigration a porté des fruits. Masroor Khan, ancien étudiant de l'Université de Manitoba au Canada.
Après mon diplôme de premier cycle, j'ai obtenu un permis de travail de 3 ans, également appelé permis de travail du 3e cycle, et j'ai postulé pour un emploi. J'ai été recruté dans un cabinet comptable, j'y ai travaillé pendant 1 an à plein temps, ce qui m'a permis de faire une demande de carte de résidence. Permanent.
La Nouvelle-Zélande aussi, avec 130 000 étudiants étrangers, renforce sa stratégie de recrutement. Julian Ashby.
La grande majorité, environ 50%, vient de Chine et d'Inde. Nous avons aussi un grand intérêt pour les étudiants, les meilleurs venant d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord, d'Europe, du Moyen-Orient et d'Asie du Sud-Est.
Malgré cette concurrence, certains experts estiment que les États-Unis peuvent redevenir le premier choix pour les étudiants étrangers. Marie-Catherine Chase, directrice de la communication pour les programmes d'échange d'étudiants.
L'un des aspects fantastiques du paysage mondial de l'enseignement supérieur est que tout pays peut devenir une destination de choix suivant des facteurs appropriés. Ainsi, les États-Unis, par exemple, pourraient redevenir une destination de choix et dominer pendant un certain temps.
Elle ajoute que des mesures comme le renforcement de la convivialité par le biais de cours d'anglais, le développement de réseaux et les organisations étudiantines aident aussi à attirer plus d'étudiants étrangers.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, dernière semaine des vacances avant la rentrée scolaire de lundi prochain, à Goma, différentes associations caritatives font des dons de kits scolaires aux enfants orphelins tout en sensibilisant sur les mesures de prévention contre Ebola, tandis que les parents appellent le gouvernement à l'effectivité de la gratuité de l'éducation de base promise par le président Félix Tshisekedi. Reportage de Charlie Kasereka, notre correspondant à Goma.
À Goma, nombreux sont les parents qui n'ont pas encore tout ce qu'il faut pour faire une bonne rentrée scolaire pour leurs enfants. Les écoles reprennent ce lundi 2 septembre. Comme beaucoup de parents, Kambal et Hiller, la cinquantaine, au chômage depuis plusieurs années et perd d'une dizaine d'enfants.
Je scolarise 12 enfants par an, ce n'est pas si moins. Je ne saurais pas acheter les biens pour tous ces enfants. Et il y a beaucoup de parents qui sont comme moi, qui n'ont pas de travail.
Face à ces difficultés, les associations caritatives viennent à la rescousse avec un dos de kits scolaires composé de cahiers et de stylos. C'est le cas de l'association des mamans pour l'autoprise en charge et le développement. Améa Dansigle qui vient d'assister plus de 400 enfants en âge scolaire. Joséphine Saouda Tekarongia est la fondatrice de cette association.
J'ai une compassion envers les vulnérables. Je vais recommander à tous les partenaires locaux, nationaux et internationaux de nous appuyer. Parce qu'on voulait faire plus, mais on est limité aux moyens financiers.
Le gouvernement congolais promet la suppression des frais de fonctionnement des écoles qui étaient à la charge des parents. Cette mesure est jugée incomplète par la députée provinciale Adèle Bazizane, qui est aussi une ex-ministre de l'éducation ici au Nord Kivu.
Actuellement, avec le système éducatif congolais, ce sont les parents qui sont les premiers partenaires du système éducatif congolais. Ayant cette petite expérience, je ne voudrais pas que ça soit vraiment du chantage. Donc nous voudrions voir le gouvernement accompagner cette gratuité jusqu'à la suppression effective de frais, de primes qui sont payées dans les écoles, parce que c'est cette prime-là qui pèse sur les dos des parents. Ça ne sert à rien que nous puissions arriver à tromper l'opinion en disant qu'il y aura effectivité en supprimant les 1000 francs de bulletins, 1500 francs d'identification informatisée, 200 francs de sonates. Nous osons croire qu'il y aura effectivité.
Cette édition 2019-2020, le contexte est un peu différent avec la maladie à virus Ebola, déclarée depuis plus d'une année et qui touche trois provinces de l'Est et de la RDC, à savoir le Nord Kivu, le Sud Kivu et la province de l'Ituri. Les responsables de l'éducation en province promettent déjà les mesures de prévention dans les écoles. Emmanuel Gachamba, inspecteur de l'éducation pour la formation technique au Nord Kivu.
L'école, c'est un endroit à forte fréquentation. Maintenant, les premières mesures prises, c'est la sensibilisation des élèves à ne pas se comporter comme avant, à ne pas vraiment s'embrasser, à ne pas se toucher à la main. Toutes les dispositions sont prises pour que chaque chef d'établissement, du primaire, de la maternelle et même du secondaire, puisse avoir un dispositif pour le lavage des mains.
Selon les données de l'inspection de l'éducation, la ville de Goma attend environ 14 000 jeunes écoliers et écolières qui vont pour la première fois à l'école. Charlie Kasereka pour VOA Afrique, Goma.
Abdourahman Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, 7 mois après son investiture, le président Félix Tshisekedi a finalement son premier gouvernement. L'équipe est composée de 66 membres, dont 5 vice-premiers ministres et 10 ministres d'État. Dans ce gouvernement de coalition, le FCC de l'ex-président Joseph Kabila détient 2/3 des portefeuilles grâce à sa majorité écrasante au Parlement. La composition du gouvernement, la taille de l'équipe, les chances de réussite de la coalition FCC cash et ses priorités. Nous allons évoquer toutes ces questions avec nos invités ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook.
Les leaders du G7 vont apporter 251 millions de dollars pour l'entrepreneuriat féminin à travers la Banque africaine de développement grâce à l'initiative Action positive pour le financement en faveur des femmes en Afrique. Sur le terrain, de nombreuses organisations se démènent pour promouvoir l'autonomisation des femmes, comme notamment LEAD africaine, fondée par 10 femmes de Toastmasters International. Aminata Keita en est la vice-présidente. Lors d'un entretien avec Nathalie Barge, elle a abordé diverses questions liées au leadership féminin.
L'objectif est que le petit nombre se mette au service du grand nombre, comme même dit la présidente de LEAD africaine. Simplement, nous faisons des projets, nous aidons les femmes à se développer, à s'alphabétiser et à mettre en place de petits projets d'autonomisation financière, afin qu'elles soient indépendantes. Des organisations comme LEAD africaine, justement, aident les femmes à développer leur estime de soi-même, leur confiance en soi, parce que la confiance en soi est à la base de tout. Dans ce que nous faisons, nous les accompagnons. Même les femmes candidates en politique, hein.
Les candidatures féminines, alors, qu'est-ce que vous faites pour les accompagner? Les femmes qui sont du reste très rares à être présidentes de partis politiques.
C'est vrai. Et C'est vrai que c'est une question de plus en plus abordée, cette question de participation des femmes en politique. Ce que nous avons constaté, c'est qu'en général, les femmes sont toujours au bas des listes électorales. Avant les élections, elles sont volontaires, on les positionne, mais dès que les élections approchent, vous voyez que les femmes sont au bas et c'est les hommes qui sont en avant. Donc, ce que nous avons fait un projet une fois d'interpellation, c'est-à-dire à interpeller la société en général sur la participation des femmes en politique. Et nous avons fait des pétitions, informé la population sur la nécessité d'accompagner les candidatures féminines. Mais à côté, ce que nous faisions, c'est que nous formions les femmes, nous les accompagnions. Nous avons fait des cours de coaching, des cours de prise de parole en public pour les aider à présenter leur vision. Cela a fait effet, on peut dire. Et ça a encouragé plus de femmes à se présenter.
Sur la question de la prévention des conflits, d'une certaine manière, parce que plus de femmes dans les forces de l'ONU, dans les forces de police, dans l'armée, etc., c'est quelque chose qui fonctionne bien et qu'on ne fait peut-être pas assez, non ?
C'est vrai, et je crois qu'il faut de plus en plus compter avec les femmes dans le cadre de la prévention des conflits et même de la résolution des conflits, parce que les femmes, justement, ont ce leadership qui est recherché aujourd'hui, même par les hommes. On parle de féminisation du leadership, le côté humain et maternel de la femme est mis en avant. Les gens font confiance aux femmes. L'IDE africaine, dans ses projets, justement, d'aide aux femmes, a mis en œuvre un grand projet de choix de femmes et de jeunes filles dans certains quartiers. Le projet a été réalisé en Côte d'Ivoire, dans les communes d'Abobo et de Yopougon, où les femmes sont impliquées maintenant dans la prévention des conflits. Ça marche très bien, les institutions locales et puis les responsables communautaires ont été impliqués dans le projet et ils sont entièrement d'accord, y compris les maires, hein, que les femmes fassent partie prenante des projets. Donc quelques femmes, seulement des femmes et des jeunes filles ont été ciblées pour repérer des foyers de conflit, de les reporter afin qu'il puisse y avoir des actions qui soient prises à temps pour éviter les crises qu'il y a eu précédemment.
Aminata Keïta, vice-présidente de l'IDE africaine, directrice du Centre d'accompagnement personnel et professionnel. Vous pouvez suivre dans son intégralité cet entretien dans Le Monde au féminin sur voafrique.com.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Les éléphants sont menacés quotidiennement par les braconniers. Rien que ce mois d'août, 9 éléphants ont été tués dans la réserve de la faune de Bender, département du lac Léré au sud du Tchad. 6 suspects ont été appréhendés par les éléments de la lutte anti-braconnage et remis à la justice tchadienne. Les précisions de notre correspondant en Yamena, André Kodmadjingar.
Il a fallu une lutte âpre pour que ce présumé braconnier tombe dans les mailles du service forestier. Il y a à peine 3 semaines, le 6 août, une patrouille des éléments de la lutte anti-braconnage a eu un accrochage avec ce présumé braconnier dans la zone de Binaire. Ils se sont retranchés dans la forêt difficile d'accès, laissant derrière eux des armes de guerre et quelques matériels, comme en témoigne le colonel Hamid Hissen, commandant de la garde forestière et faunique.
L'opération a été vraiment minutieuse. Il n'y a aucune mort, il n'y a aucune blessée. On a préparé nos agents mentalement, psychologiquement, et on a eu encore le coup de main de la population aussi de là-bas, et ce qui a fait que l'opération réussisse à 100%. Et ce trafic, il faut que ça s'arrête.
Les éléments de la lutte contre le braconnage ont changé de stratégie. Ils se sont déguisés en civil pour mettre la main sur 6 personnes, dont 3 braconniers présumés et 3 complices. Ils sont accusés d'avoir tué 9 éléphants. Pour preuve, ils possèdent 17 défenses d'éléphants, 2 armes de poing, 4 chargeurs et 93 munitions. Lieutenant Doba Vipère a mené l'opération.
On a déguisé une personne en commerçant par rapport à leur numéro de téléphone qu'on a trouvé, qui les a appelés, que vraiment j'ai besoin de défense. Voilà, ils sont venus en Yamena. Nous, on a envoyé de l'argent pour qu'ils montent. Ils ont monté le bus devant nous. Alors nous, ici au niveau du commandement, on a monté le bus. On s'est déguisé en civil avec les matériels et tout. On est descendu dans la ville de Pala. On a mené nos investigations. On est allé sur le champ, là où ils travaillent. Comme ils étaient convaincus que le gars qui était avec nous était le commerçant, ils ont transporté toutes leurs défenses, amenées dans la ville de Pala. On les a surpris dans la maison et on les a arrêtés. Ils viennent en chevaux dans la zone de Binaire. Ils envoient quelqu'un dans la forêt. Ils détectent là où les éléphants et après il vient et il tire.
Pour le ministre en charge de l'environnement, Brahim Mohamed Jamaladine, l'application de la loi pour ce cas d'espèce doit être de rigueur. Le procureur de la République, Youssouf Tom, a promis que ces présumés braconniers seront jugés conformément à la loi 14-2008 portant régime des forêts et de la faune et des ressources halieutiques qui protègent et répriment tout acte portant atteinte à l'environnement.
Nous leur ferons subir la rigueur de la loi pour que tous ceux qui tenteront d'emprunter cette voie, ils vont être dissuadés. Et surtout, on s'est rendu compte que que les activités de braconnage contribuent à financer le terrorisme. Ils vendent ça par kilo et qu'au Tchad, un kilo leur est acheté à 35 000 francs. Les grands patrons qui s'approprient ces défenses vont les vendre au prix peut-être le plus offrant. Ils n'ont pas révélé l'identité de celui qui achète ces défenses pour aller les vendre à l'extérieur. Mais la suite de l'enquête nous les déterminera.
En moins de 2 ans, une trentaine d'éléphants qui sont des espèces protégées sont tués par les braconniers au Tchad. André Godemadingar Diamena, VO Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.